Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Vous êtes ici chez vous, sentez-vous à l'aise. Hein? Est-ce que il vous est déjà arrivé d'avoir des épreuves? Ah, certainement oui, hein? Vous allez tous me répondre. Oui, on a des épreuves.
Ok, oui.
Ok, oui. Et ces épreuves, en fait, sont comme des murs infranchissables, des barrières dressées contre vous. Hein. Certaines de nos barrières portent des noms complètement différents. Par exemple, problème de couple, mauvaise relation avec ses beaux-parents. Hein. On connaît tout ça. Pas moi. Enfant rebelle, parents rebelles, situation professionnelle bloquée, situation financière très difficile, relations conflictuelles avec l'Église et problèmes de santé, et la liste n'est pas exhaustive. Ces barrières, en fait, vous empêchent d'avancer. Parfois, par peur d'aggraver les choses, vous n'osez même pas vous approcher du bord de l'eau. Je dis bord de l'eau car je fais référence aux Hébreux dans le livre d'Exode, chapitre 14, qui fuyaient Pharaon et se sont retrouvés devant un mur représenté par la mer Rouge. Vous avez peut-être souvent accusé Dieu de ne rien faire, de s'acharner sur vous, de ne pas vous aimer, ou vous l'accusez de ne pas être tout simplement présent. Les Hébreux, eux aussi, ont murmuré ainsi. Nous allons mourir, nous étions mieux esclaves des Égyptiens. En plus, vous voyez autour de vous des gens avancés et vous dites, eux au moins, ils n'ont pas de problème. Mais vous vous trompez, car eux aussi ont eu des barrières qu'ils ont affrontées en s'appuyant sur Dieu et sa parole tout en étant persévérants. Les Hébreux voyaient donc la mer comme une voie sans issue, mais l'Éternel la voyait comme une issue de secours. Il nous arrive aussi parfois de fuir nos barrières. Nous sommes souvent tentés de faire machine arrière, comme les Hébreux voulaient le faire. Mais Dieu désire nous mettre face à ces montagnes qui se dressent et ces murs. Et quand nous nous approchons de plus près, nous voyons qu'il y a un trou dans celui-ci. Et Dieu nous dit, perce ce trou. Et soudain, une entrée apparaît. Et quand on y entre, Dieu nous dit, ben regarde. Cette barrière cache quelque chose de bien meilleur. Mais pour cela, il te faut la battre. Affronter cette épreuve. Et parfois, comme dans le texte d'Ézéchiel 8, verset 7, Dieu nous dit, puis le texte dit, mais il me dit, il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils d'homme, perce la muraille. Je la perçais et une ouverture apparut. Il me dit, entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent. Parfois, Dieu veut te montrer que les choses abominables aussi dans ta vie, qu'il faut corriger. Oui, celles que tu as laissées de côté, ou que tu as dit, je le réglerai, serait ça demain. Hein? Et finalement, la barrière s'est dressée. Dieu veut nous rendre responsables, forts et courageux, tout comme l'était Jésus. Il est Jésus, qui a affronté chaque opposition, chaque mur, chaque montagne tendue devant lui. Jésus a pris ses responsabilités et l'issue fut tout simplement glorieuse. Nous en sommes les témoins. Seigneur, nous voulons, Seigneur, en ce jour, Seigneur, qui était complètement consacré, éternel Dieu, te demander, Seigneur, de nous donner un cœur comme Jésus. Comme ces serviteurs aussi qui t'ont fait confiance, qui n'ont pas regardé, Seigneur, aux montagnes qui se dressaient devant eux, éternel Dieu, mais qui les ont, par ta grâce, affrontées. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ces exemples, Seigneur, que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur, qui nous font tellement de bien, éternel Dieu. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tout simplement te donner la place qui t'est due, Seigneur. Parce que, au-delà de nos épreuves, tu es là et tu nous tends la main. Tu es prêt, Seigneur, à nous tenir dans tes bras, éternel Dieu. Tu nous encourages chaque jour, Seigneur. Même quand parfois nous ne le ressentons pas, éternel Dieu. Mais tu es là. Alors, Seigneur, sachant que tu es divinement présent auprès de nous, nous voulons, Seigneur, te louer sans cesse, et te dire, Seigneur, encore que nous t'aimons, Seigneur, d'un amour sincère, parce que tu nous as aimés le premier au point de donner ta vie pour nous, éternel Dieu, à travers Jésus-Christ. Alors c'est lui, Seigneur, que, en ce matin, nous désirons ressembler encore, Seigneur. Faire comme lui, agir comme lui, éternel Dieu. Et rentrer dans ta gloire aussi, Seigneur, comme lui, il est rentré dans ta gloire. Alors dispose nos cœurs ce matin à pouvoir te louer.
Tu ressembles, Jésus.
Ce culte spécial où nous pouvons nous retrouver autour de sa table. Jésus a voulu que nous fassions un avec lui, que nous soyons en fait des membres qui dépendent les uns des autres, et nous bénissons parce que je crois que sans l'Église en fait n'ont pas pu progresser dans notre foi. Tout seul on n'y arrive pas. Jésus en était conscient, c'est pour ça qu'il nous a unis. Il s'est pris 12 amis. Et ces 12 amis ont permis en fait que nous puissions en fait avoir aussi cette connaissance de Jésus et nous puissions vivre aussi comme lui. J'ai besoin de toi, dit ce chant. Tu as besoin de moi. Alors unissons nos mains et unissons nos voix. Partageons le pain et partageons la joie autour de notre maître Jésus.
Thank you.
grâce soit rendue. Alléluia.
Merci Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration. Oui, mon âme n'est plus seule. Éveille-toi, mon âme. C'est un chant profond, un chant qui nous invite à constater que nous ne sommes plus seuls, que Jésus, par son esprit, est avec nous. Quelle grâce, quel privilège nous pouvons avoir quand nous constatons que malheureusement dans notre monde, certains auraient dû avoir cette aide. Ils n'ont pas pu prendre des bonnes décisions parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils étaient seuls. Dieu est disponible par son esprit. C'est pour ça que l'Église doit rester debout pour annoncer que Dieu est disponible, que Jésus est vivant et qu'il est là. Comme le dit certaines publicités, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours, disponible. Éveille-toi, mon âme. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ceux d'entre nous qui ont fait cette expérience, qui ont eu leur cœur, leur être intérieur touché par toi, réveillé par toi. La Bible dit que nous étions morts à cause du péché. Mais quand tu t'es révélé à nous, quand tu nous as touchés, tu nous as ramenés à la vie. Alléluia. Merci pour ta vie en nous, Seigneur. Et donne-nous maintenant de méditer ta parole. Après t'avoir chanté, célébré, donne-nous d'être sensibles à ce que tu veux nous communiquer ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est toujours une responsabilité particulière de parler de la part de Dieu, de prêcher. Mais c'est une responsabilité que je vis avec assez de reconnaissance parce que du coup, ça m'aide moi aussi à continuer de me rapprocher de Dieu et d'être au service du Seigneur pour son Église. Nous avions, au cours de l'année passée, travaillé nos vies, travailler notre relation avec Dieu, avec un livret que nous avons fait ensemble les mardis. Le livret s'appelait « Disciples en devenir ». C'était un livret de la série ITA que nous étudions régulièrement. Et j'aimerais encore revenir sur la synthèse de ce livret. Pour moi, quelquefois, apporter des prédications nouvelles sont utiles si ce qu'on a déjà fait, on a peut-être faire le tour de la compréhension de ce qu'on a fait. Et parfois, rappeler, c'est utile parce que mieux on met des bases, mieux on peut continuer de l'avant. Mais moins les bases sont bonnes, moins ce que nous construisons dessus est solide. Donc, je vais rappeler quelque chose que j'ai déjà fait en juin. Nous avions vu ce livret, en tout cas pour ceux qui étaient là le mardi, ensemble. J'ai déjà rappelé ces choses en juin, mais il me semble que c'est encore utile de le refaire ce matin. Disciple en devenir. Je suis disciple de Jésus-Christ. Le mot disciple est utilisé dans la parole de Dieu, est utilisé dans les évangiles. Et les premières apparitions de ce mot, c'est quand Jésus commence son ministère. Mais bien avant Jésus, Jean-Baptiste avait aussi des disciples. Donc le mot était bien utilisé dans la religion juive, pour parler de ceux qui suivaient l'enseignement d'un maître, qui écoutaient cet enseignement, mais qui essayaient aussi d'être comme leur maître. Le mot disciple veut dire des apprentis, des gens qui apprennent de quelqu'un, et dans la pensée juive, en tout cas dans la pensée biblique, l'apprentissage n'est pas simplement intellectuel. L'apprentissage, il est aussi dans le comportement, dans le caractère, dans toute la vie de la personne. Et le premier sujet que nous avons abordé en ce moment-là, c'est l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'était le premier sujet. Parler de l'évangile pour ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs années, ça paraît tellement facile parce que finalement, l'évangile, c'est notre vie, n'est-ce pas? C'est ce moment précis où cette bonne nouvelle nous a été annoncée et nous n'avons plus été les mêmes à partir de l'annonce, mais plus à partir de l'accueil de cette bonne nouvelle. C'est l'apôtre Pierre qui nous donne de vivre ce que c'est que l'évangile. Très tôt dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'il est poussé par le Saint-Esprit pour prêcher l'évangile, il a eu plusieurs discours, mais il y a cette section en Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, on voit l'apôtre Pierre en prédication. Et je fais la lecture. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparut non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché, des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le pria de rester quelques jours auprès d'eux. En Actes chapitre 2, à la Pentecôte, à la descente du Saint-Esprit, quand Pierre est poussé par Dieu pour annoncer l'évangile, c'est uniquement des Juifs, donc des enfants d'Israël qui sont en ce moment-là le public auquel Pierre s'adresse à Jérusalem. Donc essentiellement des gens qui avaient une connaissance de Dieu au travers leur histoire, leur tradition. Et Pierre va leur dire que désormais, cette tradition était une préparation à la venue de celui qui est le Sauveur, à la venue de Jésus. Et là, en Acte 10, c'est la rencontre de Pierre avec ceux qui n'ont pas de culture juive, notamment avec Corneille. Corneille était un officier romain qui n'était pas d'origine juive, donc qui ne connaissait pas cette histoire de ce Dieu révélé à Israël. Mais le texte dit que Corneille était quelqu'un qui savait que Dieu existait et qui était admiratif du Dieu des Juifs, mais qui ne savait pas comment faire pour rester en communion avec ce Dieu. Et pendant que son cœur était poussé à chercher ce Dieu, au même moment l'apôtre Pierre était en train de prier, comme à son habitude, et Dieu révèle à l'apôtre Pierre au travers d'une série de visions et d'une visitation des serviteurs de Corneille que Dieu souhaite que Pierre aille visiter Corneille pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cet épisode que nous avons à chapitre 10. Quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille a non seulement réuni sa propre famille, mais il a fait appel à toutes ses connaissances dans sa maison parce qu'il avait ce ardent désir que ceux qu'il aimait et que ceux qu'il connaissait puissent entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Pierre fait. Donc, Il situe qui est ce Jésus. Il montre que ce Jésus était bien avant sa venue annoncée par Dieu. Et que même que toute l'histoire d'Israël, l'Ancien Testament, préparait la venue de ce Jésus. Et que ce Jésus, finalement, c'est par lui que tous les êtres humains, toutes les nations, toutes les couleurs, toutes les générations seront jugées. Ceux qui seront vivants au jour du jugement ou ceux qui seront déjà passés par le chemin de la mort. Jésus est le juge des vivants et des morts. Mais il n'est pas simplement le juge, il est d'abord le sauveur des vivants. Parce que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Et l'apôtre Jacques dit, si vous entendez cette bonne nouvelle, n'endurcissez pas votre cœur. Car c'est le jour où vous entendez cette nouvelle, c'est le jour de votre salut. Car demain ne vous appartient pas. Vous ne savez pas ce que vous réserve le lendemain. L'évangile, c'est ça. Jésus avait été envoyé en Israël par Dieu. Il allait ça et là, il faisait du bien. Les juifs, pas tous, mais en tout cas, les responsables du peuple juif de l'époque, les chefs religieux du peuple juif de l'époque, lui ont fait un procès injuste. Ils l'ont crucifié avec la complicité des Romains. Jésus est mort, mais comme il était sans péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme Jésus était sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir. S'il est mort, c'est pas à cause de ses propres péchés à lui, c'est parce qu'il portait nos péchés à nous. Sinon, il n'aurait même pas pu mourir puisqu'il n'était pas pécheur. Mais vu qu'il a accepté de porter nos péchés, c'est nos péchés qui l'ont fait mourir. Mais vu qu'il était sans péché lui-même, la mort n'avait pas d'emprise sur lui. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et le texte dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Parce que Christ t'a vaincu. Et désormais, il donne cette victoire à tous les enfants de son Père qui le suivent. N'est-ce pas? Ceux qui nous parlent au travers de la Bible, les apôtres, sont des témoins oculaires. Les apôtres l'ont vu, c'est ce que Pierre dit. Il dit, nous avons marché avec lui, nous avons bu, nous avons mangé avec lui. C'est Jésus, nous l'avons touché, embrassé, étreint. Nous avons été avec lui pendant 3 ans. Nous vous parlons de choses que nous avons vues, que nous avons entendues. Nous sommes les premiers témoins de la présence de Dieu dans le monde. Les apôtres l'ont vu, ils ont mangé avec lui. Et c'est pour cela que Jésus leur a donné le message à transmettre. J'ai déjà dit qu'il est le juge des vivants. Et tous ceux qui croient, tous ceux qui mettent leur confiance en lui, recevront le pardon de leurs péchés. Toujours se rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'on le sache ou pas, peu importe. Vous savez que dans notre monde, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas tous les articles de loi du code civil, si tu enfreins un, qu'on juge que tu l'as enfreint, tu ne pourras pas dire, je ne le savais pas. Puisque c'est écrit dans la constitution de ton pays. Puisque ça fait partie des lois de ton pays. Mais cet exemple est pris de Dieu, n'est-ce pas? Dieu, dans son décret éternel, à cause du péché originel, il a dit désormais, à cause de ce péché, tout être humain naît pécheur. Donc tout être humain est condamné. Pas par la joie que Dieu a de condamner, mais parce que si Dieu ne condamne pas le péché, il devient injuste lui-même. Or Dieu est juste. Or Dieu est juste. Or Dieu est juste. Il dit, je ne prends pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable, parce que je suis juste. Tout ceci avait été prédit. Quand on regarde toutes les prophéties depuis la chute à Adam et Ève, la première promesse, la première notion de ce salut est dans ce que dit Dieu lorsque il fait la sentence sur le serpent qui est la représentation de Satan. Il dit que c'est vrai que tu as introduit le péché dans le monde, tu as trompé l'homme et tu l'as fait rentrer dans le péché. C'est pour cela que désormais, tu seras écrasé. La descendance de la femme te vaincra. Donc, on a déjà là l'amorce de l'annonce du Messie, la descendance de la femme. Tu lui piqueras le talon, mais sa descendance t'écrasera la tête. C'était déjà dans le livre de Genèse l'annonce du Messie. Et tout au long de l'Ancien Testament, il y a cette annonce. Il y a ce qu'on appelle les typologies de Jésus. Hein. Quand on prend Josué et qu'on regarde la racine du nom Josué, en fait, c'est la même racine que Jésus. C'est la même racine qui veut dire sauveur. Et Josué est un type de Jésus parce que par lui, Dieu sauve Israël. Et tout au long comme ça de l'histoire d'Israël, on voit comment Dieu met en place ce salut qui va venir. Et les prophètes l'annoncent clairement, même si eux-mêmes ne savent pas trop comment ça va se réaliser. Et celui qui l'a annoncé avec beaucoup de précision, c'est Isaïe. Isaïe a mis des mots clairs 600 ans avant que Jésus ne vienne. Donc tout l'Ancien Testament préparait à la venue du Messie. Et on a deux personnages, dès la rentrée de Dieu dans le monde, dès que cet enfant est né et que Marie rentre au temple, on a deux personnages. On a Siméon et on a cette dame, cette veuve, n'est-ce pas? Siméon qui dit, j'ai vu ton salut qui est rentré dans le monde, tu peux maintenant laisser partir ton serviteur, car j'ai vu celui qui est venu pour sauver le monde. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est, il y avait un danger sur l'humanité, à cause de la faute de l'humanité elle-même, mais Dieu, qui est un Dieu d'amour, qui ne laisse pas sa création sans solution, a déjà prévu la solution. Cette solution, c'est Jésus. C'est la bonne nouvelle. La diapo d'après, s'il te plaît. Et on voit dans le texte que lorsque l'apôtre Pierre, prêche cet évangile, il y a une réponse à cette bonne nouvelle. Cette réponse, c'est que le cœur des personnes qui étaient là était disponible et qu'elles ont compris que c'était le jour de leur salut. Elles ont dit, comme on l'a aussi dans Actes chapitre 2, que ferons-nous maintenant que nous savons que c'est ça? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, pour repartir dans cette relation avec Dieu? Et là, dans le texte, on sent bien que Corneille et toute sa famille ont adhéré à ce message, l'ont compris, l'ont accepté dans leur cœur. Et il y a une manifestation qui se produit, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Ils ne sont plus les mêmes après avoir dit oui à Jésus. Et dans l'expérience de beaucoup de chrétiens, cette rencontre avec Dieu n'est pas toujours miraculeuse, extraordinaire. Il n'y a pas du vent, on n'est pas toujours tombé. Mais on a senti qu'il y a quelque chose qui était plus pareil. On a senti qu'il y a quelque chose qui était plus pareil. Notre compréhension a changé. Notre rapport à la Bible, qui était peut-être un rapport distant, est devenu d'une certaine facilité que nous n'arrivons même pas à expliquer. Des textes qui nous étaient expliqués avant, qui étaient peut-être lourds ou distants, prennent tout le sens, alors que nous n'avons fait aucune faculté de théologie. Et nous avons une vision des choses qui est différenciée. Ce que nous aurions pu dire hier qui était bien, aujourd'hui on a du mal à le dire bien parce qu'on a compris que Dieu l'appelle mal. Et du coup notre comportement aussi s'adapte et change. C'est ça la conversion. Je l'ai déjà dit une fois, si vous voulez matérialiser la conversion, on dit la conversion, c'est comme si nous étions sur un chemin, et c'était le chemin de l'enfer, parce que Romains 3, 23 dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul qui peut se taguer en disant, moi un jour, sans Jésus, devant Dieu, je vais lui dire, je suis juste. La Bible dit, c'est faux. Donc nous étions tous en train de marcher sur ce chemin vers la perdition. Et quand Dieu nous rencontre, il nous fait réaliser que nous sommes dans la mauvaise direction. Et si nous le comprenons, alors l'Esprit de Dieu nous aide à faire demi-tour. Et nous prenons la bonne direction. C'est ça la conversion. Changer de direction. As-tu changé de direction, mon frère? As-tu changé de direction, ma soeur? As-tu changé de direction? Et dans ce changement de direction, il y a cette invitation, non, il y a cette ordre de Jésus que tous ceux qui croiront en moi passent par les eaux du baptême. Et donc, ce n'est pas une condition, on va dire, indispensable, mais c'est une condition nécessaire. Si on a compris que Dieu veut nous sauver, qu'on a donné son cœur à Dieu, bah, l'étape d'après, c'est de le confesser. Romain dit que ce que nous croyons, nous le confessons dans notre cœur, mais arrivé un moment, il faut le confesser dans la bouche. N'est-ce pas? Parce que quand on le confesse dans la bouche, ça veut dire qu'on est convaincu et qu'on peut le dire parce qu'on est convaincu, parce qu'on est d'accord avec. Et c'est ça le baptême. Vas-y, s'il te plaît. Matthieu 28, 16 à 18. C'est là que nous trouvons cette invitation de Jésus, ce commandement du Seigneur, n'est-ce pas? Quand Jésus est ressuscité, il dit aux dames, allez dire à mes disciples de m'attendre en Galilée. C'est là-bas que je vais les rencontrer. Et les disciples obéissent, ils vont l'attendre en Galilée, et c'est l'épisode que nous avons là. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et puis plus loin, plus bas dans le texte, on a, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc on voit bien que dans cette invitation de Jésus, on a vu la première étape. La première étape, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Annoncer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle. Et ceux qui l'accueillent, cette bonne nouvelle, ce sont des disciples. Et une fois que les gens sont des disciples, l'étape d'après, c'est d'obéir au Seigneur en passant par les eaux du baptême. N'est-ce pas? Et vous avez quelques éléments là d'appréciation de disciples. D'abord, aller vers les nations apporter ce message de l'évangile, puis il devait baptiser ceux qui avaient décidé de croire, n'est-ce pas? Et troisièmement, il devait enseigner aux nouveaux convertis à observer tout ce que Jésus leur avait appris. Quelquefois, on a un peu du mal avec le baptême, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que le baptême ne sauve pas. Mais à force de dire que le baptême ne sauve pas, plusieurs croyants, plusieurs personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont des disciples, ne comprennent pas que si on a compris qui est Jésus, si on a donné son cœur à Jésus, bah, par obéissance, on doit passer par les eaux du baptême pour dire, je suis convaincu de ce que Jésus a fait dans ma vie. J'aime à le dire parce que c'est mon Dieu. J'aime le témoigner. Donc le baptême, c'était ça. C'était ce témoignage public de ce qui s'est passé dans ton cœur. Et retenir ce témoignage public, ça peut laisser dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait complet dans ton parcours de foi, dans ton parcours de chrétien. As-tu honte de dire que Jésus est ton Seigneur? Y a-t-il des critères qui disent qu'il faut atteindre le niveau 10 ou le niveau 50 de la sanctification pour se baptiser, tout en sachant qu'on continue de se sanctifier jusqu'au retour de Jésus? La diapo d'après. Le baptême est donc cette deuxième dans les trois étapes, n'est-ce pas? C'est exprimer le choix qu'on veut suivre ce maître qui est Jésus, qu'on veut continuer d'être sous le regard délicieux de ses bons commandements. C'est ça. Souvenez-vous que le texte de Actes 10 dit que Jésus faisait que du bien. Peut-on se retenir de suivre celui qui fait que du bien? Je ne pense pas. C'est un geste par lequel on exprime son identité. On exprime le fait que désormais, on est un avec le Seigneur. On l'aime. C'est un geste d'amour. C'est un geste dans lequel on dit notre amour, on dit notre positionnement dans cette marche chrétienne. Et on dit aussi qu'on veut continuer d'avancer dans cette nouvelle façon de vivre. La démarche alors, c'est quand on croit, il faut se faire baptiser. Il faut se faire baptiser. Et ensuite, on continue d'être enseigné dans la parole de Dieu pour continuer à construire sa vie personnelle, mais aussi à construire la vie avec l'Église. C'est ça qui est important de savoir sur le baptême, n'est-ce pas? Le baptême ne sauve pas. Il faut le dire haut et fort, c'est la vérité. Mais le baptême dit quelque chose de ton rapport à Dieu, de ton obéissance à Dieu, de ton positionnement en tant que chrétien. Si tu ne l'as pas encore fait, aujourd'hui, c'est le jour où tu dois y réfléchir. Tu aimes ton Seigneur, ne traîne plus. Fais cet petit appel alors. Certes, on ne le fait pas avec légèreté, on a bien compris qu'il ne s'agit pas de ça. Mais si on prend trop de temps à y réfléchir, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolé de le dire comme ça, mais si on prend trop de temps à réfléchir à son baptême, c'est qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas grave. Ce problème, il a aussi une solution. Ça s'appelle l'enseignement biblique. Si on se fait enseigner, on résout le problème. Parce que la parole nous aide à nous construire, à nous positionner et à nous décider. Alléluia. Donc, je vous ai mis quelques éléments encore pour dire, voilà, parfois on a besoin de tellement dire des choses sur le baptême pour que les gens comprennent qu'il faut y aller. Il me semble que, honnêtement, c'est utile, mais ce n'est pas nécessaire. Si on est convaincu, il faut avancer. Si on est convaincu, il faut avancer. Certes, chacun a son rythme. Ce n'est pas une pression, genre baptise-toi. Ce n'est pas un diplôme de toutes les façons. Mais tu es déjà sauvé si tu acceptes le Seigneur. Pourquoi ce pas d'après te fait peur? Pourquoi ce pas d'après te fait peur? Le brigand à la croix, lorsqu'il a vu tout ce qui s'est passé, il a vu tous les événements qui sont passés autour de Jésus, il a eu une discussion avec son deuxième collègue, parce que eux, ils avaient compris que les heures qui venaient après, ils ne seraient plus de ce monde. Que leur sort était scellé, que la mort était proche. Et lui, il a eu l'intelligence de dire, celui-là, il n'a rien fait. Nous, on mérite d'être sur cette croix parce qu'on a été des brigands. Mais celui-là, honnêtement, avec tout ce qu'on a vu là, et il dit, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi. Et Jésus dit, dès ce soir, tu es avec moi, le royaume de mon Père, dès ce soir. Il n'est pas passé par le baptême parce qu'il n'avait pas l'occasion de passer par le baptême. Il était pendu à ce bois, il allait mourir dans les heures, dans les minutes qui suivent. On prend cet exemple pour montrer qu'il y a des cas où le baptême ne va pas avoir lieu. Mais quand même, c'est des cas d'extrême urgence, n'est-ce pas? Nous, on a toute la vie devant nous et on prend cet exemple pour dire, hey, le brigand lui-même, il ne s'est pas baptisé. Tu n'es pas un brigand déjà. Tu n'es pas attaché à une croix. Tu ne vas pas mourir, en tout cas, de ce qu'on sait dans les minutes qui suivent. Fais le pas d'après. Ça confirme ce que tu es et ça fait plaisir à ton Dieu qui a laissé cette ordonnance. Baptisez-vous. La troisième leçon que nous avons vue, c'est ce qu'on appelle les principes de foi. C'est-à-dire que dans la marche chrétienne, Dieu, parce que nous sommes passés par la case de la foi, la Bible dit que le salut ne vient pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, à laquelle nous répondons par la foi. C'est une confiance que ce que Dieu dit est vrai et nous l'acceptons comme vrai. Et Dieu, par son esprit, fait ce changement en nous. Et nous sommes invités de confirmer ce changement par le baptême et par la suite de nous laisser enseigner. Et les principes de la foi, c'est l'enseignement. Être un disciple, c'est suivre l'enseignement de Jésus. C'est suivre l'enseignement de Jésus. Vas-y, la diapo d'après. Suivre l'enseignement de Jésus, on a ce texte de Colossiens qui dit, Colossiens 2, voilà, ma référence est bonne. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rues du monde, et non sur Christ. Pourquoi cela est important dans la marche du chrétien qui se donne à Dieu? Parce que nous avons été éduqués, forgés dans une civilisation, dans une société sans Dieu. Et du coup, beaucoup de choses qui sont dans nos vies, qui sont nos façons de raisonner, de penser, de nous comporter, d'agir, sont des choses qui ont été forgées dans un monde sans Dieu. Certes, beaucoup de ces valeurs sont issues de Dieu, donc elles ont encore la réminiscence de la parole de Dieu. Mais d'un autre côté, les plus essentielles ne calculent plus la pensée de Dieu. Et donc si, une fois convertis, une fois baptisés, si nous ne continuons pas à nous alimenter de cette parole, nous prenons le risque de rester entravés par la pensée du monde. Et cette pensée, c'est ce qu'on appelle la philosophie, c'est ce qu'on appelle le raisonnement du monde, c'est ce que la Bible appelle aussi les pensées de la chair. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, la démonstration n'est plus à faire. Notre monde, en plein 21e siècle, prend des positions qui sont clairement des positions que la Bible appelle de la rébellion contre Dieu. Et notre axiome aujourd'hui, c'est puisque tout le monde fait ça, donc c'est certainement bien. Mais ce n'est pas vrai du tout. Qui met le curseur entre le bien et le mal? C'est notre société, n'est-ce pas? Hier, ce qu'elle appelait bien, aujourd'hui elle appelle mal. Hier, ce qu'elle appelait mal, aujourd'hui elle appelle bien. Donc le curseur de la société bouge en fonction de qui commande, de qui a la tête, de qui décide. Alors que le curseur de Dieu ne bouge pas. Il est invariable. Il est le même depuis la création. Sa parole n'a pas changé. Il a même mis en garde, il dit, garde à celui qui enlèvera même un iota, donc le petit point qui est sur le i, il prend un risque. Parce que si Dieu a mis ce point sur le i, il ne sait pas quoi. Sa parole est immuable. Et donc cette parole-là, elle a besoin de nous forger, de nous travailler, de travailler à notre façon de raisonner dans le monde, à nos façons. Vous savez, un comportement ne vient pas du jour au lendemain. Un comportement vient d'une réflexion. Qu'elle soit inconsciente ou pas, quand elle est mûrie, elle se transforme en acte que nous pratiquons. C'est pour ça que les publicitaires le savent. La science publicitaire nous harcèle de messages parce qu'ils savent que c'est là qu'il faut qu'ils travaillent. Et du coup, tu dis, ah, mais c'est bien, j'ai besoin de ça. Alors qu'en réalité, si tu prends de la distance, en fait, tu n'en as pas besoin. Mais vu que tu as été exposé à ça tellement de fois, tu finis par te convaincre, ah, ça serait pas mal. Mais c'est tout un art. Quelquefois, c'est vrai, on en a besoin. Mais beaucoup de fois, franchement, on n'en a pas besoin. Mais ils nous ont convaincus qu'on en avait besoin. Du coup, on croit qu'on en a besoin. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, quand il parle, il te donne le temps d'y réfléchir. Il ne te presse pas, il ne t'harcèle pas, mais il te le redit dans des contextes divers et variés pour qu'une fois que tu forges cette pensée, qu'elle soit utile à ta vie, qu'elle soit utile à ceux que tu aimes, qu'elle soit utile à ton prochain et au monde entier. Et c'est une parole tellement puissante, tellement forte. Josué a dit, qui voulez-vous servir? Il a dit ça au peuple d'Israël à un moment donné. Dieu avait fait une grande chose, et malgré ça, le peuple était un peu dubitatif. Il dit, vous devez décider aujourd'hui qui vous voulez servir. Dans d'autres termes, vous devez décider aujourd'hui qui vous voulez laisser vous aider à façonner votre projet de vie, votre vision du monde, votre façon de vous comporter. Il dit qu'à cela ne tienne, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Décidez pour vous. Mais nous, on a déjà décidé pour nous. Et j'aimerais vous inviter à cette réflexion. Pour ceux qui sont plus âgés dans la foi, qui veux-tu laisser continuer de diriger ta vie. Parce que le défi quand on a de l'âge dans la foi, c'est qu'on a tellement vu des choses. On a tellement de recul, parfois vrai ou faux, j'en sais rien, que finalement la vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est Dieu qui continue de façonner ma façon de vivre, ou finalement je me suis exempté parce que j'ai une expérience personnelle maintenant. Notre expérience, aussi grande soit notre âge dans la foi, n'est pas pareil à la parole de Dieu. Ce qui doit continuer d'être ton guide, mon frère et ma soeur, malgré tes 10 ans, tes 20 ans, tes 30 ans de foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. Ton expérience est utile, mais ce n'est pas elle qui doit être ton guide. Quand on est plus jeune, c'est le bon moment de choisir celui qu'on veut qui nous guide. Il dit, comment le jeune homme... Pardon? Comment le jeune homme... Donc, comment le jeune homme pourra-t-il se projeter de la bonne façon dans la vie? Il dit, c'est en laissant la parole de Dieu l'éclairer, comme une lumière sur un sentier obscur. La vérité, c'est que quelquefois, on réalise pas que le sentier, il est tout sombre, il est tout noir. Et c'est tout le problème. On pense que le sentier, il est éclairé, donc on n'a pas besoin de lumière. Jusqu'à ce qu'on se heurte l'orteil, ou on se cogne la tête, on dit, oulala, oulala. Oulala. Que Dieu nous aide bien aimés. La diapo d'après. Ça, c'est quelques éléments que j'ai dit pêle et mêle. On peut passer. Le quatrième, c'est le renouvellement de l'intelligence, qui est la suite. Plus on baigne dans la parole, plus le Seigneur nous aide à renouveler notre façon de discerner, de vivre les choses, de comprendre les choses. Et c'est important. Dans un monde où le monde aussi envoie ses rafales de conception, de pensée. Et nous, aujourd'hui, on nous appelle des conservateurs. On dit, oulala, oulala, oulala. C'est des gens qui n'aiment pas évoluer. Ils sont figés, ils sont sclérosés, ils sont rigides, ils sont conservateurs. Oui, et puis après. Si c'est des bonnes choses à conserver, je veux bien être appelé conservateur, franchement. C'est pas pour autant que je vais prendre une âme contre celui qui n'a pas la même pensée que moi. Non. Ce que je demande juste, c'est qu'il me respecte dans mes positions, comme je le respecte lui dans ses positions. Et s'il y a besoin, qu'on puisse confronter nos façons de vivre, nos façons de croire en Dieu, et chacun décide pour lui-même. Et avec Jésus, c'est ça qui est intéressant. Il n'a fait pression à personne. À chaque fois, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il invite à la réflexion. À une fois, il a dit à ses disciples, si c'est trop dur, prenez vos bagages et partez. Il dit, ne me suivez pas comme des moutons de panurge. Suivez-moi parce que vous avez compris. Et je vais vous aider à comprendre. Et c'est ça qui est la force de Dieu. Donc, selon le monde, l'intelligence. Et le texte, vas-y, c'est celui de Romains 12. Hein, on le connaît assez bien, n'est-ce pas? C'est un texte que les plus anciens connaissent, que les plus jeunes devraient chercher à connaître parce que c'est un texte fondateur, Romains 12. Le début de Romains 12 et la suite sont des morceaux à mettre ensemble parce que le début c'est 1-2 qui dit voilà, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Mais donnez-vous vous-même comme un culte raisonnable à Dieu, n'est-ce pas? Et là on a l'autre texte qui nous montre finalement que quand on se laisse renouveler par cette intelligence, bah, voilà ce qui arrive dans nos vies. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez même ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point. vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, ne lui donne pas à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est terrible ces versets. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Quel défi. Si on n'est pas transformé par la parole de Dieu, on ne peut pas vivre ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Donc vous comprenez pourquoi chaque étape est importante pour aller sur l'étape d'après. Terminons. Vas-y encore. Et finalement, la vie de disciple. Bah, la vie de disciple. Vas-y, la diapo d'après. En effet, Romain. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Bien-aimé, la vie de disciple, c'est une vie qui appartient à Dieu. En donnant nos vies à Dieu, on se fait du bien à nous-mêmes, parce que finalement, qui sait mieux que nous l'avenir? Qui sait mieux que nous l'avenir? C'est lui. Il sait toutes choses. Et si on se confie en lui, on a l'assurance qu'il nous mènera à bon port. À bon port. Même si des fois on tâtonne, mais il ne nous laissera pas tâtonner tout le temps. Et nous montrera toujours le chemin. Alors, réfléchis à ces trois engagements pour terminer. Le premier engagement, c'est ton cœur. Quelle conviction nouvelle, on va dire, as-tu développé? Quelles sont les transformations que Dieu a opérées dans ta vie? Y a-t-il des points que tu aimerais que Dieu développe davantage dans ta marche chrétienne? C'est ton cœur qui doit parler là, ton être intérieur. Le deuxième engagement, c'est ton intelligence, ta réflexion, ta façon de penser. Forger tes convictions claires et mémoriser les Écritures. On dit qu'aujourd'hui, à cause de nos mémoires extérieures, donc nos mémoires extérieures, ce sont nos téléphones, nos tablettes, nos iPads, nos iPhones, nos Android, notre génération d'humains a laissé son cerveau au repos. On ne mémorise plus les choses parce qu'on a toujours la mémoire externe à qui on peut faire appel. Ok, Google. C'est vrai en plus. Il nous donne des réponses, donc du coup, on est devenu un peu feignant. La génération d'avant nous mémorisait les versets par cœur. C'était la nourriture de l'âme. Nous, on ne fait plus ça. C'est un peu dommage. Parce qu'il y a des situations où tu n'as pas de connexion, où ton téléphone en rate, où tu n'as pas de mémoire externe, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire si tu n'as pas cette parole ancrée en toi? Que Dieu nous aide. Et pour terminer, engager ta vie. Il y a des décisions, il y a des projets personnels, il y a des habitudes de vie. Tu dois décider. Tu dois décider. Tu dois décider de faire le pas d'après, frère, sœur. Tu dois décider. Il y a des moments où on a hésité, mais à un moment donné, stop, stop. Il faut passer de l'autre côté. Il faut passer de l'autre côté. Il faut passer de l'autre côté. J'aimerais tellement que chacun de nous laisse l'Esprit de Dieu le convaincre sur des choses très précises, très pointues, très claires. Et de dire, Seigneur, je sais, pendant que Serge Oulaye est en train de parler, je vois des choses Je me remémore des choses. Je vois des situations dans ma vie. Je vois des décisions. Aide-moi. Je veux continuer. Je veux passer de l'autre côté. J'ai trop perdu du temps. Je veux arrêter de perdre du temps. Je veux avancer avec toi. Je veux avancer avec toi. Je vous invite à prier. Les mots me manquent pour terminer cette prédication dans la prière, Seigneur. Je veux juste que tu nous aides. Autant que nous sommes, tu connais nos situations diverses et variées. Le dimanche passé, ton serviteur a parlé du fait que nous devons donner notre cœur tout entier à toi. Et aujourd'hui, tu nous aides à méditer sur notre vie de disciple. La bonne nouvelle, le pas du baptême, l'enseignement de la parole, le renouvellement de notre intelligence et cette vie forgée selon ton modèle à toi. Aide, me voici devant toi et je viens avec ton église. Tu connais chacun, tu connais chacune. Fais-nous bouger, Seigneur. Fais-nous bouger. Pour la gloire de ton nom, mais surtout pour le bonheur de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.
Voilà. Merci, très cher pasteur, pour ce message. Je vais devoir me le réécouter encore. Mais voilà, mais je voudrais, ça m'a fait penser à un chant, et du coup j'aimerais bien que nous puissions le prendre ensemble, qui dit: j'ai décidé de marcher dans ta vérité, j'ai décidé de vivre aussi dans ta sainteté. Tu vois, vous,
Je t'en Je...